France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, l'essentiel de ce journal sera consacré aux conséquences de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui ne montre absolument aucun signe d'essoufflement au cinquième jour du conflit. L'administration américaine peine toujours à préciser sa feuille de route. La stratégie comme les objectifs semblent en revanche beaucoup plus clairs. S'agissant de l'État hébreu, nous serons à Téhéran dès le début du journal. On se rendra par ailleurs aux Émirats, l'une des nombreuses pétromonarchies du Golfe, cible des représailles iraniennes. Et puis nous serons également à Beyrouth, après que Israël a choisi, vous le savez, d'ouvrir un deuxième front au Liban. On en discutera avec notre invité, l'ambassadeur du Liban en France. Enfin, toujours dans ce contexte, on s'intéressera aux résultats de Thales et Dassault, ou quand les titres liés à l'industrie de la défense pourraient bien profiter de cette escalade militaire au Moyen-Orient. Une fois de plus, l'horizon a été brisé ce matin à Téhéran par les panaches de fumée qui s'élèvent depuis 5 jours déjà dans le ciel de la capitale iranienne, où règne un silence inquiétant rompu uniquement par le rugissement des avions de chasse et des explosions massives. L'armée israélienne a annoncé ce matin y mener des frappes à grande échelle, installant ainsi un climat de peur et d'imprévisibilité auprès de la population. Globalement, c'est donc toujours et encore la panique qui prédomine aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'a appris il y a moins d'une heure, les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, qui devait débuter ce soir et pour 3 jours, ont finalement été reportés. Le correspondant de RFI pour France Culture, Siavosh Gazi, a réussi à nous joindre depuis Téhéran.
Depuis ce matin, on a connu les frappes les plus intenses contre différents quartiers de Téhéran, à l'est, à l'ouest et au sud de la capitale. Là, il y a des concentrations d'installations et de bases militaires des gardiens de la révolution, de l'armée régulière, du Basij, les fameux milices islamiques, ou encore du ministère de la Défense, qui ont été frappés durement en 5 minutes. J'ai entendu plus de 40 détonations venant des quartiers de l'est qui ont durement frappé. Il y a eu également des frappes contre la zone de Parchin. Là encore, il y a des installations et des bases des gardiens de la Révolution, des bases balistiques où on produit des missiles qui ont été frappés. Et puis le pouvoir a décidé d'annuler la cérémonie, en tout cas reporter la cérémonie de deuil qui avait été annoncée pour ce soir à 22h à Téhéran. La raison officielle, c'est que le pouvoir attendait, a affirmé qu'il y avait trop de monde qui allait venir à cette cérémonie et donc la gestion de la foule était trop compliquée et qu'une autre date sera annoncée prochainement. En tout cas, il doit y avoir des funérailles nationales organisées dans les prochains jours avant l'enterrement du guide suprême iranien dans le mausolée de l'imam Reza, le 8e successeur du prophète Mahomet, dans la ville sainte de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran.
Alors, au 5e jour de la guerre, l'onde de choc provoquée par l'attaque américano-israélienne sur l'Iran continue de se propager jusqu'à faire trembler désormais tous les voisins arabes de la péninsule du Golfe. Ce matin, le Qatar dit avoir intercepté des missiles de croisière et des drones iraniens. L'Arabie Saoudite affirme avoir intercepté un drone visant une raffinerie. Les Émirats ont déjoué les tirs de 3 missiles balistiques et 129 drones. Alors, pour l'instant, tous ces pays hésitent encore à répondre à l'agressivité de Téhéran, eux qui ne voulaient pas de cette guerre précisément parce qu'ils craignaient de se retrouver en première ligne des représailles iraniennes. Et d'ailleurs, dans les pétromonarchies, en dépit des attaques, donc des rapatriements de ressortissants étrangers qui s'accélèrent malgré les mauvais résultats, ce matin encore des bourses de Dubaï et Abu Dhabi, et bien la propagande bat son plein à présent pour expliquer que tout va bien, ou presque. Exemple en l'occurrence à Dubaï, où le consulat américain a été visé la nuit dernière. Pas de victimes, mais des dégâts matériels. Les précisions de notre envoyé spécial aux Émirats Arabes Unis, Isabelle Labéry.
Le bruit du drone, son impact, puis les flammes. Ces images impressionnantes ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce matin, depuis la rue, plus aucun signe. On arrive devant le consulat des États-Unis, grand bâtiment blanc, comme si rien ne s'était passé.
Tout est normal, il n'y a rien. Rien du tout. On va faire demi-tour, vous allez voir par vous-même.
Julius, chauffeur de taxi, loue le système de défense antiaérienne des Émirats, l'un des meilleurs du monde.
Ce n'est pas Dubaï qui est visé, et le gouvernement protège la vie des citoyens. Il en a fait sa priorité. Le pays est sûr.
L'attaque fait à peine l'objet de quelques lignes dans les médias officiels. À Dubaï, il est d'ailleurs interdit de diffuser ce genre d'images, sous peine d'amende ou de prison. Thierry Adine fait de la gestion de patrimoine dans l'Émirat.
Je sais que certains influenceurs ont été rappelés à l'ordre et je trouve ça normal. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de pas créer non plus de panique pour rien. Imaginez que demain, tous les influenceurs disent c'est la guerre à Dubaï, les magasins vont être être pillées, les stations d'essence vont être pillées, les gens vont se bousculer, ça sera totalement débile. Et là, ça va créer un risque. Moi, je valide le gouvernement totalement sur ce sujet-là.
Les Émirats ne sont pas en guerre, ils veulent le faire savoir. Les autorités multiplient les messages rassurants sur le bon fonctionnement des banques, des stocks de médicaments ou de nourriture.
Un reportage à Dubaï, signé Isabelle Labéry.
Et outre la guerre donc lancée contre le régime iranien, s'ajoutent à présent les frappes menées par Israël sur le Liban.
Avec cette impression d'éternel recommencement partout, les mêmes images de déplacés, éparpillés dans les rues, les familles entassées dans des voitures regorgeant de petites affaires extirpées à la va-vite avant de fuir. Ces frappes ont tué hier au moins 6 personnes dans des villes du sud de Beyrouth et 5 autres à Baalbek dans l'est du pays. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Beyrouth, ce matin un hôtel a été touché dans la banlieue chrétienne de la capitale, proche du palais présidentiel et de nombreuses missions diplomatiques. Est-ce qu'il faut en déduire, Étienne, qu'aucun secteur n'est sûr aujourd'hui au Liban ?
Mais c'est un peu le message qui est envoyé. Babda, c'est un quartier mixte, éloigné des fiefs du Hezbollah. Donc vous le disiez, on est à quelques kilomètres du palais présidentiel. Mais cette nuit, vers 4 heures, un drone vraisemblablement a projeté un missile contre le deuxième étage de l'hôtel Confort dans le quartier. D'après la municipalité, il y a 5 blessés dans un état grave. L'hôtel a été perforé, les habitations autour ont les vitres brisées. Les voisins pensent qu'un membre du Hezbollah a été ciblé. Il serait venu voir une amie dans cet hôtel. Cela entretient donc la crainte de la contagion. Les habitants des quartiers de voir les frappes s'installer dans leur secteur pour viser des membres ou des soutiens de la milice chiite. Pour l'instant, le périmètre rouge est surtout au sud de Beyrouth, dans l'est du pays et près de la frontière israélienne où l'armée israélienne aurait fait une incursion d'après une télé libanaise. Cette nuit et ce matin, il y a eu beaucoup de frappes dans ces secteurs. On est maintenant entre 30 000 et 58 000 réfugiés selon les chiffres de l'ONU ou des autorités locales. Le poids de cette guerre semble dur à porter. Le pays était déjà à genoux avant la reprise continue des bombardements. Les réfugiés qui viennent des zones les plus exposées retrouvent des conditions précaires qu'ils avaient déjà subies il y a presque un an et demi. Et l'alignement de la milice sur l'Iran est en train de fracturer sa base et d'alourdir aussi les fractures sur le plan politique. Lundi, le gouvernement a tenté de taper du poing sur la table pour essayer de reprendre les choses en main. Mais ce sera compliqué. Les tensions sont fortes maintenant au sein du pays.
Merci Étienne Monin en direct de Beyrouth. Alors bien sûr, officiellement, toutes ces attaques ne visent que le Hezbollah, la milice chiite pro-iranienne, aujourd'hui lâchée d'ailleurs par ses soutiens historiques. Pour la première fois, les puissants clans chiites de la Bekaa ont annoncé soutenir la décision du gouvernement qualifiant d'illégale les activités militaires du Hezbollah. Un désaveu supplémentaire alors que la colère et l'épuisement gagnent aujourd'hui donc une partie des habitants, certains n'hésitant plus à accuser le mouvement de faire le jeu de l'Iran au détriment de la protection de la population. Pour continuer d'évoquer cette situation extrêmement précaire et même délétère au Liban, invité à présent de la rédaction, Rabbi Shaher, ambassadeur du Liban en France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Hier soir, Étienne Monin le rappelait à l'instant, le gouvernement libanais estimait à 58 000 le nombre de déplacés provoqués par les frappes israéliennes. De son côté, Médecins du Monde a annoncé se déployer pour soutenir les populations civiles prises pour cible. Peut-être pour commencer, quel regard portez-vous sur déjà la situation humanitaire dans votre pays ?
Elle est catastrophique, bien sûr. Donc, permettez-moi de corriger un peu vos chiffres. Je viens d'avoir un appel avec notre ministre des Affaires sociales. Elle me dit que ce nombre a augmenté jusqu'à 65 000. Donc, on a ouvert à peu près 350 hébergements pour ces réfugiés déplacés, mais les moyens manquent. Je salue l'aide des Médecins Sans Frontières, mais on sent que cette fois-ci, la communauté internationale, elle est beaucoup plus timide pour venir à l'aide de cette population-là. Ça veut dire que même la communauté internationale, elle est un peu fatiguée de cette guerre qui se répète, et seuls les citoyens en payent le prix. Donc, bien sûr, arrêter l'incursion ou bien les frappes israéliennes, parce que Israël est en train de alimenter la rhétorique de Hezbollah en chassant les gens de leur maison d'une façon très systématique. Il faut le rappeler que lors de la première fois, il y a un an et demi, et elle a détruit plus que 36 villages. Et puis, elle a jusqu'à maintenant causé à peu près 120 000 déplacés qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Et créer encore une vague des réfugiés qui va aller jusqu'à 100 ou 200 000, ça veut dire mettre le Liban dans le chaos. Est-ce que c'est comme ça on peut vraiment résister à l'aile droite, à l'aile militaire de Hezbollah et instaurer la paix dans cette région-là? Est-ce que c'est ça l'intention d'Israël, de mettre le chaos au Liban et de faire sauter l'État libanais de l'intérieur? Je pense que Israël ne fait qu'alimenter le discours de Hezbollah. Et ça nous inquiète vraiment.
Et est-ce que l'État libanais, lui, a les moyens aujourd'hui suffisants pour s'opposer au projet militaire du Hezbollah ?
Non, mais il a toute l'intention. Ça veut dire que depuis l'arrivée de mon président au pouvoir, Joseph Aoun, et du Premier ministre Nawaf Salam, et du gouvernement, et on a montré une intention ferme à désarmer le Hezbollah. On l'a fait dans le sud du Liban, et c'était applaudi par toute la communauté internationale. On voulait continuer à le faire dans le nord du sud de Litanie. Aujourd'hui même, on devait avoir une conférence internationale en France qui a été reportée pour appuyer l'armée libanaise qui a besoin d'être renforcée vis-à-vis de Hezbollah ou vis-à-vis même pour vraiment rassurer la population que l'État libanais est sérieux de reprendre sa souveraineté sur tout son territoire.
Justement, si l'on se place cette fois-ci du côté de la population libanaise, diriez-vous que l'allégeance pour le Hezbollah, ou à tout le moins le soutien populaire dont bénéficiait jusqu'à présent en partie le mouvement, commence à se fracasser sur l'autel de la réalité?
Regardez, j'ai pas les chiffres, mais je sais que pour la première fois depuis 40 ans, l'État libanais ne donne plus une légitimité à cette aile militaire de Hezbollah. Ce n'est pas minime, c'est un séisme à vrai dire au Liban. Donc je sais que les actions de Hezbollah sont réfutées de la part de tous les autres partis, même le parti du chef de l'Assemblée, monsieur Nabih Berri, s'est dissocié de Hezbollah. Il a voté la décision du gouvernement. Il ne s'est pas retiré du gouvernement. Ça veut dire que Hezbollah n'a plus
décision,
une raison.
Décision, quand même, de déclarer donc illégales toutes les activités militaires, sécuritaires du Hezbollah.
Tout à fait. Donc, il est en train de s'affaiblir. Mais si Israël continue à frapper et surtout à faire une incursion dans le sud du Liban et ne pas se retirer du sud du Liban, je peux vous garantir que même si on va vraiment bannir le Hezbollah, un autre Hezbollah qui va se former.
Lorsque l'armée israélienne soutient que la prise de contrôle donc de nouvelles positions au sud du Liban, comme la création d'une zone tampon, ne constitue pas une opération terrestre, mais qu'il s'agirait là d'une mesure simplement tactique, comment est-ce que vous comprenez cette justification? Est-ce que c'est une manière pour l'État hébreu de relativiser son choix, au fond, de bafouer la souveraineté de l'État libanais?
Regardez, ils l'ont dit, ils ont une approche tactique et vis-à-vis de Liban, ça veut dire n'est pas stratégique. Ça veut dire cette position tactique, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher les gens de rentrer chez eux, empêcher les gens de reconstruire leur village, et puis même brûler les terrains et couper les oliviers. Et puis voilà, ils veulent pas de vivants dans cette zone-là. Donc c'est pas une façon de faire la paix, c'est pas une façon de faire face à Hezbollah, et ça va pas tenir. Je vous le dis. Donc moi j'appelle vraiment Israël à revenir sur la table de la négociation. Le Liban a accepté une négociation civile avec Israël pour vraiment régler ces problèmes-là d'une façon à renforcer l'État libanais et puis à mettre fin à faire taire toute voix qui accuse l'État libanais de ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette incursion et cette agression israélienne.
Merci beaucoup, Rabbi Shaher, donc ambassadeur du Liban en France, d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci Thomas.
Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Prévue de longue date, la rencontre hier à la Maison Blanche entre Donald Trump et Friedrich Merz devait initialement se concentrer sur les droits de douane et la guerre en Ukraine.
Et finalement, le chancelier allemand se sera retrouvé malgré lui dans la position délicate d'être le tout premier dirigeant étranger à rencontrer le président américain depuis le lancement donc de la guerre en Iran. Les deux hommes ont affiché leur bonne entente importante, malgré quelques différends particuliers s'agissant des conséquences possibles de ce conflit sur l'économie mondiale. En revanche, le dirigeant républicain s'en est pris avec virulence, non seulement au Premier ministre britannique, Keir Starmer, accusé de manquer d'esprit de coopération, risque même de torpiller la fameuse relation spéciale entre leurs deux pays, mais Donald Trump a également menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, reprochant au Premier ministre Pedro Sanchez, cette fois-ci, son refus de laisser les États-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie. Mathieu de Taillac, bonjour.
Bonjour.
En direct de Madrid. Ce matin, le chef du gouvernement espagnol, Mathieu, a tenu à répondre à Donald Trump.
Oui, le gouvernement de Pedro Sanchez avait déjà répondu hier soir à cette menace d'un embargo américain par un communiqué. Donc le texte rappelait les règles du droit international, la compétence de la Commission européenne en matière de commerce extérieur. Il disait en substance que Washington ne peut pas prendre légalement des représailles ciblant uniquement l'Espagne. Cette fois-ci, ce matin, c'est une réponse politique qu'a apporté Pedro Sanchez, sans jamais citer les bases militaires de Rota et de Morón, ni nommer Donald Trump.
La position du gouvernement d'Espagne se résume en quatre palabras.
La position du gouvernement espagnol se résume en quatre mots. Non à la guerre. Les gouvernements sont là pour améliorer la vie des gens, pour apporter des solutions aux problèmes. Et il est absolument inacceptable que des dirigeants incapables d'assumer cette mission utilisent la fumée de la guerre pour masquer leur échec et remplir au passage les poches de quelques-uns. Toujours les mêmes, les seuls qui gagnent quand le monde cesse de construire des hôpitaux pour construire des missiles. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui va à l'encontre de nos valeurs et de nos intérêts simplement par peur des représailles d'un seul homme.
Voilà, l'allusion est transparente. Après le dossier israélo-palestinien, l'Espagne se positionne à nouveau à l'avant-garde de l'opposition, cette fois-ci opposition aux frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et l'Espagne attend la solidarité européenne face à cette menace américaine.
Merci Mathieu de Taillac en direct de Madrid. Et c'est donc toujours dans ce contexte guerrier que sont publiés depuis hier à Paris les titres des plus grandes entreprises liées à l'industrie de la défense, en l'occurrence Thales et Dassault Aviation. Le premier affiche un bénéfice net en hausse de 66% en 2025 à 1,68 milliard d'euros, porté notamment par la hausse des budgets militaires. Quant au second, Marine Corbel, ses résultats sont supérieurs aux attentes du marché avec un résultat opérationnel en progression de 22% pour un chiffre d'affaires total de près de 7,5 milliards d'euros.
Il n'en espérait pas tant, 7,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une hausse de presque 20% par rapport à l'année dernière. Le Rafale se vend très bien. Cet avion de chasse ultra polyvalent peut autant servir pour le combat aérien que pour des opérations de reconnaissance ou de la dissuasion nucléaire. Et il a su s'imposer à l'international alors que ce n'était pas gagné face à ses concurrents, notamment le F-35 américain qui est produit à tour de bras. On parle de 142 F-35 livrés cette année contre 26 Rafales. Mais Dassault reste dans la course. Éric Trappier, le PDG, a réaffirmé ce matin que les usines étaient prêtes à passer de 2,5 aujourd'hui à 4, voire 5 avions produits chaque mois dans les 2 ans à venir. Mettre les bouchées doubles, ce sera sûrement nécessaire si le contrat de vente de 114 Rafales supplémentaires à l'Inde est confirmé. Une négociation qui fait partie des principaux objectifs du groupe pour l'année à venir. Seul ombre au tableau, l'incertitude autour du projet SCAF, le système de combat aérien du futur. Ce projet européen qui implique la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique est estimé à 100 milliards d'euros et il a du plomb dans l'aile. Au niveau politique d'abord, la France et l'Allemagne n'arrivent pas à s'entendre sur le modèle d'avion qui doit être produit. Du point de vue industriel ensuite, Dassault et Airbus s'écharpent sur le pilotage du projet. Airbus ne veut pas être un sous-traitant de Dassault. Éric Trappier, son PDG, n'a pas manqué ce matin de charger Airbus, l'accusant de torpiller le projet qui a déjà coûté plusieurs centaines de millions d'euros à la France. Ce qui est certain, c'est que même si le SCAF était abandonné, il ne risque pas de gréver les résultats de Dassault. L'année dernière, le groupe a embauché 1500 personnes, dont 500 créations d'emplois.
À crise inédite, mesure inédite.
C'est aujourd'hui que Bruxelles doit dévoiler ses propositions très attendues sur le Made in Europe, visant à réindustrialiser le vieux continent tout en luttant contre la concurrence chinoise, sauf que l'instauration de cette préférence européenne, une mesure longtemps taboue en Europe en raison de son caractère protectionniste, ne va pas nécessairement de soi. Elle a d'ailleurs fait l'objet de très vifs débats au sein des 27, raison pour laquelle l'annonce du projet de loi attendue initialement à la fin de l'année dernière a été repoussée à plusieurs reprises. Au final, l'urgence à agir a donc fini par convaincre les plus réticents, au premier rang desquels l'Allemagne et les pays nordiques, à la condition toutefois que cette mesure soit strictement ciblée. C'est ainsi ainsi que l'exécutif européen a dû revoir ses ambitions à la baisse en ce qui concerne la liste des secteurs concernés. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec du soleil quasiment partout, à l'exception du Roussillon. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.